Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette chose invisible, mais qui conditionne de grandes parts de nos vies, la mondialisation. Et oui, de plus en plus de parcelles de nos existences ont une dimension planétaire. Nos achats font le tour du monde avant d'arriver à leur destination. Les idées et les modes traversent les océans. En Europe, les universités se positionnent par rapport à un classement élaboré à Shanghai, tandis que dans les domaines de la fiscalité ou de l'écologie, les États tout autour du globe doivent impérativement se coordonner s'ils veulent ou s'ils espèrent avoir un impact. Cette mondialisation pèse autant qu'elle libère, au point que mon invité de ce soir se demande dans son livre si elle ne serait pas par hasard une bêtise. Enfin, il dit en réalité une connerie. Difficile de trancher cette question ce soir, évidemment. En revanche, nous allons tenter de mieux comprendre les racines du concept et de nous demander aussi depuis quand notre monde s'est véritablement positionné à l'échelle de la planète.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vincent Capdepuis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant dans le secondaire, géohistorien et cartographe. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un géohistorien, parce que cartographe, on voit bien, mais un géohistorien, c'est quoi? C'est un géographe qui s'intéresse à l'histoire des lieux?
Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un géographe qui s'intéresse, oui, à l'histoire, à l'évolution des lieux, au rôle de l'espace, la configuration de l'espace dans l'histoire. Ça peut être aussi un historien de la géographie comme science, mais surtout un historien des découpages de l'espace. Bon, on connaît les travaux de Christian Grataloup, notamment.
Donc, vous êtes un disciple d'une certaine manière.
Je suis un ancien étudiant. Hein, il a été mon directeur de thèse.
Voilà. Donc, vous dites on connaît pas forcément. Peut-être que vous pourriez creuser un petit peu et nous dire davantage ce qu'est la géohistoire.
Alors, la géohistoire, de ce point de vue-là, c'est l'étude, par exemple, de l'histoire du découpage en continents. C'est-à-dire des découpages qu'on pense comme naturels, a priori, qu'on a appris à l'école, qu'on récite, qu'on interroge peu. Et alors qu'en réalité, ils n'ont rien de naturel et ils sont très culturels. Ils sont issus d'une histoire européenne et ils ont été imposés au monde par les Européens. Et je crois que c'est vraiment très important de les déconstruire, de les démonter. Ça ne veut pas dire s'en débarrasser. Hein. On ne peut pas passer à un savoir qui serait post-continental, hein, même si on pourrait peut-être l'imaginer. Mais on en a besoin. Et donc, c'est l'étude du découpage en continent, mais c'est aussi tous les toponymes. Voilà, j'ai travaillé sur Proche-Orient, Moyen-Orient, Croissant Fertile. Voilà, des noms qu'on connaît, qu'on manipule et dont on ignore l'histoire. Voilà, Croissant Fertile, on pourrait penser que c'est très ancien et en fait, ça date tout juste du début. C'est un siècle, un peu plus d'un siècle. Ça date du début du XXe siècle et c'est inventé par un égyptologue états-unien. Voilà, un exemple parmi d'autres. Et c'est important, en fait, de cette déconstruction et cette perspective culturelle et historique portée sur ce qu'on appelle en fait des métagéographies.
Donc vous avez un lieu de prédilection, c'est pas le plus petit, c'est le monde entier. Voilà, vous vous intéressez aux impensés de la mondialisation.
Alors en fait, voilà, j'ai fait ma thèse sur le Proche et Moyen-Orient, et sur le Croissant Fertile et sur le désert de Syrie, mais j'ai aussi travaillé sur le monde, sur ce qu'on peut appeler le puzzle à pièce unique en fait.
Pourquoi le puzzle à pièce unique?
Parce que tous les découpages que je viens d'évoquer sont des morceaux d'un puzzle. Et finalement, le monde, c'est la pièce unique, la pièce entière. Et finalement, on n'y fait pas attention. On parle du monde, on sait ce que c'est. Hein, y a pas de, voilà, on ne prend pas la peine de la définir. Et on ne prend pas non plus la peine forcément d'en faire l'histoire. Ne serait-ce que sur le plan du nom, en fait, du mot. Depuis quand parle-t-on du monde? Depuis quand le monde est monde, en fait. Mais on a l'impression, l'expression elle-même est paradoxale, parce que ça voudrait dire depuis l'éternité, et en fait, pas du tout, sur le plan du toponyme, en fait.
Donc vous avez publié deux livres sur ce sujet, vous en avez publié d'autres, mais sur ce sujet, 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia, c'est chez Alma Éditeur, et puis Le Monde ou Rien, c'est le dernier, histoire d'un concept géographique. Pourquoi ce titre, Le Monde ou Rien?
Ah, alors, une question un peu presque personnelle en fait. Alors on est un peu tôt pour l'heure bleue, mais je pense qu'il y a une tentation un peu nihiliste en fait C'est un essai. C'est-à-dire qu'il y a une dimension en fait, de recherche, d'histoire, des concepts, monde entre autres. Mais c'est aussi, vous l'avez dit au départ, hein, une interrogation politique en fait. Pourquoi la mondialisation? Peut-on être mondialiste aujourd'hui? Et comment se positionner par rapport au monde? Et par rapport à ça, en fait, on peut avoir la tentation, on peut avoir la peur en fait de ce rien, de parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'on ne trouve pas de sens au monde. Ou bien parce qu'on peut être tout simplement très désabusé par rapport au fonctionnement du monde. Donc, il n'y a pas de réponse en fait à cette question. Il n'y a pas de réponse non plus dans mon livre.
D'où l'interrogation la mondialisation est-elle une connerie ?
C'est une ligne de crête en fait, mais c'est une ligne de crête sur laquelle je chemine personnellement. Mais je pense que tout un chacun en fait chemine entre le rien d'un côté et le monde de l'autre, comme utopie, mais comme utopie non advenue et à définir en fait.
Donc cette question, on l'aura en tête peut-être tout au long de cette émission, Vincent Cap depuis, mais on va aussi faire de l'histoire et puis on va aussi définir un peu les termes. Qu'est-ce que ça signifie que ce mot de mondialisation, question qui paraît banale, mais au fond c'est un peu le cœur de votre dernier livre, Vincent Cap depuis.
Non, elle est pas banale. C'est intéressant de le faire, parce que vous avez mentionné le fait que j'étais enseignant dans le secondaire. C'est intéressant de faire des recueils de représentations avec les élèves, en fait, qu'on leur fait définir. Parce que, bon, voilà, j'ai des terminales, ils ne découvrent pas le mot. Ils le savent, ils l'emploient. Et en fait, il y a plusieurs définitions possibles. Ils peuvent avoir en tête la mondialisation économique. Je pense que c'est celle que tout le monde a. Ils ont aussi en tête une autre définition qui est celle de la diffusion à l'échelle du monde. On peut penser, je sais pas, à la mondialisation du foot, la mondialisation de la pizza, la mondialisation des sushis. Enfin, on peut prendre un peu des exemples à l'infini comme ça. En fait, c'est-à-dire une pratique culturelle qui s'est développée dans un lieu à un moment donné et puis qui s'est étendue à l'échelle du monde. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde fait du foot ou que tout le monde mange des sushis, etc. Donc là, c'est plusieurs définitions qui existent. Et celle que je propose, en fait, qui est un petit peu différente, qui est un petit peu plus générale, et qui essaye d'arracher la mondialisation aux économistes. Je suis pas fâché avec les économistes, mais je trouve qu'il y a un poids, en fait, de l'économie sur la manière dont on considère la mondialisation aujourd'hui, en termes d'échanges, en termes de finances. On peut le comprendre, hein, ça correspond à une réalité du monde actuel. Mais la mondialisation, c'est tout simplement la mise en monde de l'humanité. Comment, en fait, l'humanité, qui n'a pas toujours existé comme un tout, en fait, là aussi, il y a une histoire à faire de l'humanité, comme entité unique, comme acteur du temps présent, finalement procède de ce qu'on pourrait appeler une réunification par rapport à une expansion sur des centaines de millénaires, en fait, et qui aboutit à une sorte d'archipel, en fait. À un moment donné, les êtres humains, les sociétés humaines sont réparties sur quasiment toute la surface du globe, alors pas toute évidemment, mais sur une grande partie de la surface du globe, et finalement on peut de contact entre certaines parties. Bon, on connaît entre l'Amérique et puis l'Euphrasie par exemple, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une mise en contact de toutes les parties du monde. C'est la définition la plus classique en fait en géographie, hein, la mise en relation de toutes les parties du monde.
Donc la mondialisation, c'est un rapport avec l'identité de l'humanité en tant que telle. Donc vous dites, Vincent Cap depuis, que c'est l'humanité qui se réunit après s'être séparée.
Oui, puis qui se découvre en fait, parce que l'humanité ne précède pas. En fait, c'est un concept abstrait. On peut considérer qu'il y a une humanité, etc. Mais c'est un regard qui est a posteriori. Alors qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un acteur. Qui existe même sur le plan juridique. Si on prend le traité de l'espace de 1967, par exemple, l'espace est défini comme un bien commun de l'humanité. Donc l'humanité devient un acteur. Bon. On peut aussi s'interroger en fait, sur ce qu'est l'humanité, par exemple, quand on parle de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça désigne exactement? Est-ce que ça désigne l'humanité comme ensemble, en fait, ou est-ce que c'est comme une entité? Ou est-ce que c'est une qualité? Est-ce que on atteint l'humanité en fait des gens? Il y a un petit flottement en fait sur la signification de ces termes et dont l'origine remonte au XVIIIe siècle. Hein, c'est le crime de lèse-humanité en fait.
Bon. Donc on se rend compte que, pour vous, la mondialisation, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on a bien souvent en tête, c'est-à-dire quelque chose qui sépare les gens, qui est pour eux douloureux, qui met en concurrence, au fond, les humains avec les autres humains d'un bout à l'autre de la planète. Il y a quelque chose précisément d'inhumain ou d'inhumanisant dans la mondialisation. Et vous, vous nous dites, ben non, au fond, la définition de la mondialisation, c'est la réunion de la famille. Mais la réunion de famille, ça se passe pas toujours très bien.
Bah disons que c'est la question qui reste un peu en suspens, en fait. Alors, après, c'est une question un peu morale. C'est à chacun de se positionner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça dépend un peu de ses principes.
Vous avez une idée?
Mais on peut s'interroger, parce qu'effectivement, la mondialisation a des effets sans doute néfastes sur le plan économique, sur le plan culturel. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbateur pour toute société, en fait. Mais on peut aujourd'hui quand même s'interroger. Est-ce qu'il y a un gain moral? Est-ce qu'à un moment donné, et ça c'est une question forte, est-ce qu'on a gagné à se retrouver, nous êtres humains, nous humanité? Est-ce qu'on est mieux comme ça? C'est une question qui est importante et en même temps qui est un peu théorique, parce que ça a eu lieu, on en est là en fait, et il y a pas de marche arrière en fait. La démondialisation, c'est pas possible. Enfin, ce qu'on en parfois par là, c'est
pourtant
de relocalisation.
On est en ce moment dans une phase légère de démondialisation suite au Covid et avec les chaînes de valeur qui sont recréées plus localement.
Oui, mais il y a beaucoup d'illusions dans ça. Enfin, c'est une vision qui est très restrictive, c'est une vision qui est très économique, et encore sur certains secteurs peut-être. Il y a aussi peut-être des volontés politiques. Il y a des partis politiques qui portent la démondialisation, qui portent le protectionnisme, le renfermement. Ce qui n'est pas nouveau aussi, c'est ça qui est intéressant. Hein. Ce sont des idées qu'on retrouve dans les années 30 aussi. L'idée qu'il faudrait mettre des barrières ou un petit peu se partager le monde entre grands empires, voilà, autarciques sur le plan économique. Bon. Peut-être que certains le pensent, le voient le monde comme ça aujourd'hui. C'est le programme de certains, mais c'est pas le programme de tous.
Notre population et l'exploitation des ressources limitées de la planète Terre s'accroissent de manière exponentielle, ainsi que notre capacité technique à modifier notre environnement pour le meilleur et pour le pire. Notre seule chance de survie à long terme, c'est de ne pas rester sur Terre, mais de nous déployer dans l'espace. Nous avons fait des progrès considérables au cours du siècle dernier. Mais si nous voulons aller au-delà du prochain siècle, alors notre avenir est dans l'espace. Voilà pourquoi je suis favorable aux vols spatiaux habités, ou plus précisément, aux vols spatiaux destinés au transport des passagers.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous réfléchissons à ce concept de mondialisation si important en géographie avec le géographe justement Vincent Capdepuy. Vous nous avez dit, Vincent Capdepuy, que au fond la mondialisation c'était beaucoup une idée. La mondialisation c'est dans les têtes, si je comprends bien ce que vous dites. Aussi, si on dézoome encore et qu'on quitte cette pièce de puzzle unique qu'est la Terre et qu'on se projette dans l'espace et qu'on regarde la Terre depuis l'espace, ça change encore un petit peu l'idée qu'on se fait de la planète, de la taille de la planète. Comment est-ce que le fait de voir depuis plus haut la planète bleue a changé notre regard sur ce que c'était que le monde et donc sur cette idée de la mondialisation?
Alors avant de répondre, je vais revenir sur le point de départ. Je crois qu'on peut, on peut pas parler de mondialisation en fait sans conscience de la mondialisation. Je suis pas le seul, ni le premier à le dire. Hein, c'est un sociologue états-unien qui l'écrit de façon très nette dans les années 90, hein, Roland Robertson. Et donc les mots jouent un rôle. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est que les images aussi jouent un rôle important. Et je pense qu'on a tous en tête cette photo en fait de 1972 qui est la Blue Marble, en fait la bille bleue, qui est la première photo unique. En fait, c'est une seule photo, hein, c'est pas parce que des mosaïques on en a plein, mais c'est la première photo entière de la Terre qui apparaît magnifique, en fait, dans l'espace noir, intersidéral, avec les océans en bleu, les...
C'est vraiment une oasis dans le désert de l'espace.
Ouais, complètement, les volutes de nuages, etc. Donc, on voit la planète, on voit le système Terre, en fait, dans ce qu'il a d'écosystémique, en fait, comme milieu vivant et frêle milieu vivant de l'humanité, mais pas que, en fait, de tous les êtres vivants sur la Terre. Et donc, c'est vrai que cette photo de 1972, elle arrive en plus à un moment donné où le mouvement écologiste se développe, où il y a le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre à Stockholm, où l'Organisation des Nations Unies met en place le programme des Nations Unies pour l'environnement. Bon, donc on l'a peut-être oublié, mais c'est déjà il y a plus de 50 ans, il y a un demi-siècle. Et c'est ce qui fait un peu peur d'ailleurs, parce qu'on se dit qu'en un demi-siècle, on n'a pas forcément progressé. Mais en tout cas, cette image a été iconique, à un moment donné. Au point qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a quasiment disparu, parce que les images de la Terre, en fait, on les voit, elles sont partout, en fait. Je pense qu'on est quasiment aveugle à ça, en fait, à cette image du monde et à cette image de la planète. Et c'est intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup de mondialisation depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres notions en parallèle, et notamment la notion de planétarisation.
Alors on y viendra peut-être, mais okay. Cette image justement de la bille bleue vue de l'espace, elle nous fait prendre conscience aussi que nos ressources sont finies, on s'en rend chaque année un peu plus conscience, et donc, comme le disait Stephen Hawking en 2012 dans l'archive que on a diffusé à l'instant, peut-être va-t-il falloir quitter cette planète. C'est au fond la mondialisation poussée à l'extrême, c'est s'étendre encore davantage, que l'espèce humaine s'étende encore davantage jusqu'à quitter la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Vincent Cabuy?
Alors, c'est une question qui est intéressante, que j'aime bien explorer par fantaisie, on va dire, parce que jusqu'à présent, on a plutôt l'idée inverse, c'est-à-dire que, comme l'a dit Antonio Guterres, il n'y a pas de planète B. Il a dit ça il y a une dizaine d'années, mais Friedrich Ratzel, donc un géographe allemand, le disait également au début du XXe siècle. On a atteint les limites du globe. Et à ce jour, c'était vrai au début du XXe siècle, mais ça l'est encore au début du XXIe siècle, sortir de la planète, aller au-delà, sur la Lune, sur Mars, et guère au-delà en tout cas pour l'instant, ça reste possible, c'est sans doute possible. L'horizon qui est fixé, c'est 2033, parce que ça correspond à une fenêtre de tir à un moment donné où la planète Mars sera plus proche en fait. Donc c'est dans même pas 10 ans. Donc peut-être qu'il y aura des êtres humains sur Mars dans moins de 10 ans, mais il y en aura quoi, une poignée. On n'en est pas à une extension de la mondialisation, même si effectivement, peut-être qu'à terme, j'ose le penser en fait, finalement la mondialisation sera une sorte de, je sais pas comment on
de colonisation
dire,
de l'espace.
Ouais, enfin, il y aura une expansion au-delà de ce qu'on appelle le monde, et donc on aura une sorte de bimondialisation, je sais pas comment il faudra le dire, mais qui pourrait s'étendre à d'autres planètes. Mais la différence par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on est, on n'est pas dans une logique de réunification, en fait, d'une humanité qui serait déjà là. Là, on est vraiment dans une logique de colonisation.
Oui. Alors, des logiques de colonisation, il y en a eu aussi dans la mondialisation telle que on l'a connue sur la planète Terre. Faisons peut-être un petit peu d'histoire avec vous, Vincent Capdepuis. Et d'abord, à quel moment faut-il remonter pour faire le début de cette histoire de la mondialisation? Est-ce que pour vous, il faut aller jusqu'à la préhistoire? Est-ce que il faut plutôt voir du côté de la Rome antique, qui est un processus de diffusion civilisationnelle, donc une mondialisation civilisationnelle? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors, je pense d'abord qu'il faut le penser au pluriel, parler de mondialisation. Et de mondialisation, et dans ce cas-là, le terme de monde qui est présent dans la mondialisation ne désigne pas le monde avec majuscule, qui est l'espace global, l'espace terrestre. Dans ce cas-là, on parle de mondialisation par rapport à un monde qui est le monde grec, le monde arabe, le monde chinois.
Donc, qui sont des mini-mondialisations?
Qui sont des espaces limités, qui correspondent à un horizon de connaissance, à un horizon aussi de domination, si on pense à l'Empire romain. Donc ça, c'est une chose. Mais, on peut effectivement remonter un peu plus loin, quelques centaines de milliers plus loin, à la préhistoire, mais pas pour dire qu'il y a une mondialisation. À mon avis, ça n'a strictement aucun sens. Par contre, l'expansion en fait, de l'espèce humaine, et genre, je m'en tiens à l'Homo sapiens, mais on pourrait remonter plus loin, mais l'Homo sapiens qui se diffuse, enfin, en Afrique, bon, c'est des travaux permanents avec des découvertes qui viennent régulièrement un peu bousculer tout ça, mais on va dire il y a 300 000 ans, pour donner un chiffre rond, avec une première sortie vers peut-être 120 000, vers l'Arabie en fait, et puis des hommes modernes, des humains modernes, qui arrivent vers l'Australie en quoi, 50, 55 000 avant, et l'Amérique aussi, bon, etc. Donc on voit en fait ces humains se disperser, assez loin.
Mais ils se dispersent lentement.
Ouais,
ce qui fait que ils perdent le contact avec les personnes qu'ils connaissaient à l'origine. Donc est-ce qu'on peut parler de mondialisation? Parce que la mondialisation, c'est justement l'expansion à grande vitesse, au fond, d'une même culture, non?
Alors justement, il y a une disjonction, en fait. Il y a une distance. Il y a une distance qui s'instaure, plus ou moins grande, parfois avec une séparation qui est forte. On peut penser avec l'Amérique, on peut penser avec l'Australie, par exemple. Donc il n'y a pas de mondialisation. Donc là, je suis complètement d'accord avec vous. La mondialisation, c'est le processus qui va suivre. Donc cette préhistoire, en fait, elle pose la possibilité de la mondialisation. Mais ce n'est pas la mondialisation.
Voilà. Donc on aurait pose plus, les pions.
Exactement. Ouais. Et après, donc, c'est les liens qui se retissent entre ces sociétés qui ont été plus ou moins distantes.
Alors que Rome, c'est différent, Vincent Cap, depuis, puisqu'il y a cette expression « tous les chemins mènent à Rome ». C'est vrai, c'est ça la première mondialisation romaine?
C'est une expression qui est vraiment intéressante. Et bon, bien sûr que ça, le réseau routier romain a quelque chose de fascinant. Mais ça permet aussi d'illustrer ce qu'est la mondialisation, c'est-à-dire la mise en connexion, bien sûr, la mise en circulation. Et alors tout ne passe pas par le réseau routier, parce qu'au milieu de l'Empire romain, il y a la mer Méditerranée, donc il ne faut pas oublier toutes les routes maritimes, tous les bateaux qui circulent. Et cette mise en mouvement, hein, cette mobilisation qui a été permise en fait par l'Empire romain, mais qui n'a pas permis uniquement une sorte d'uniformisation, une diffusion de la culture romaine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Empire romain, on a des cultures minoritaires en fait, qui se diffusent. Mmh. On peut penser au christianisme, hein, qui ne vient pas du centre, hein, qui vient d'une marge. On peut penser au culte de Mitra, etc.
Et ça, c'est peut-être une des caractéristiques de la mondialisation, qu'en fait, ça ne va pas forcément que du centre vers la périphérie, mais la mondialisation, c'est précisément un processus d'hybridation. Dès en fait l'Empire romain, on comprend que si tous les chemins mènent à Rome, c'est dans les deux sens que ça se passe.
Oui, exactement. C'est-à-dire du centre vers la périphérie, mais aussi de la périphérie vers le centre et de périphérie à d'autres périphéries. Voilà, je pense à des soldats qui sont originaires du désert de Syrie, de Palmyre, et dont on a retrouvé les tombes écrites, enfin, des inscriptions palmyréniennes, par exemple, en Angleterre. Enfin, donc c'est assez fascinant, en fait, de voir ces circulations à l'intérieur de cet espace, de ce monde.
Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, à l'époque déjà, ça ne se passe pas très facilement. Vous citez dans un de vos ouvrages, Vincent Cap depuis, le poète romain Juvenal, qui parle de la montée des mœurs étrangères à Rome. Alors, pour les déplorer, évidemment, on a l'impression que rien n'a changé, au fond, depuis Rome. Les mondialisations, aussi petites soient-elles, et quelle que soit leur échelle, posent des problèmes, entre guillemets, de rejet de l'autre, de rejet de la culture de l'autre.
Ouais, complètement. Alors c'est un exemple, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il nous parle, il fait écho à ce qu'on connaît. Alors il y a toujours un risque peut-être d'anachronisme ou d'une surlecture des textes passés. Mais malgré tout, on voit bien que cette mise en mouvement, cette mobilisation, ces échanges provoquent des crispations, des réactions bon, qu'on pourrait qualifier de xénophobes.
Et pourtant aujourd'hui, les Européens qu'on pourrait qualifier pour certains d'entre eux de xénophobes, vont se référer à l'Empire romain pour qualifier ce qui est nous par rapport à ce que sont les autres. Donc la mondialisation, c'est aussi, quelques siècles plus tard, finalement, la réussite d'un certain syncrétisme, une assimilation.
Oui, je sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas, c'est cette mondialisation, la mondialisation globale en fait, c'est-à-dire la mondialisation qui s'est étendue à l'échelle planétaire, à l'échelle du globe, c'est la mondialisation européenne à partir ce que certains appellent le grand désenclavement, quoi, à partir du 15e siècle. Effectivement, c'est une culture qui est une culture européenne, qui a des racines multiples et parfois oubliées.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mondialisations? Par exemple, Gengis Khan, est-ce que les routes de la soie, à l'époque des conquêtes de Gengis Khan, ne sont pas une forme plus tardive de mondialisation et d'une autre mondialisation, Vincent Cap, depuis?
Alors, je sais que certains historiens spécialistes de l'Empire mongol sont un peu réticents à parler de Pax Mongolica, comme une Pax Romanica.
Pour quelle raison ?
Ouais, je crois que c'est la transposition de l'expression, mais en tout cas, ça correspond bien à une période aussi, enfin, à une période d'apaisement, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on imagine les Mongols, on imagine les invasions, on imagine la violence, etc. Et, ça fait partie peut-être de l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, alors que l'Empire mongol, c'est aussi donc une période de pacification, de mise en ordre d'un espace qui est immense en fait, hein, centré sur les plaines de l'Eurasie, et qui ont permis une communication en fait entre la petite Europe périphérique d'un côté et puis l'Empire chinois de l'autre et puis tous les empires musulmans de la périphérie sud, donc enfin périphérie par rapport au centre de l'Empire mongol. Mais c'est vraiment une période justement de communication, et l'exemple le plus connu, enfin je veux dire, c'est celui de Marco Polo. En fait, Marco Polo si peut circuler de l'Italie jusqu'à la Chine, c'est parce que c'est tranquille en fait, mm-hmm. entre guillemets, et que cette tranquillité, elle est garantie en fait par l'ordre impérial mongol, qui à un moment donné s'effondre. Après, à la mort de Tamerlan en 1405, c'est la fin de cette Pax Mongolica, c'est la fin des routes terrestres, et c'est le moment où on va chercher d'autres routes en fait, on va pour aller vers les Indes, ce qu'on appelle les Indes.
Et puis troisième grand moment qu'on aime bien qualifier de mondialisation aussi, c'est évidemment la découverte, entre guillemets évidemment, par les Occidentaux du Nouveau Monde. C'est une mondialisation pour vous, Vincent Capdepuis ?
Alors, en tout cas, c'est un événement qui participe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de grande découverte, hein, enfin, de cette appellation, ce qu'on appelle un chrononyme, mais qui date du 19e siècle. Mais effectivement, c'est un moment de rupture. C'est un moment d'une très grande violence. Enfin, je veux dire, qu'on imagine peut-être pas, même si on en parle de plus en plus, hein, en termes de population, en termes de mortalité, hein, par rapport à la population amérindienne. Enfin, ça a été un choc. D'abord biologique, hein, par toutes les maladies apportées. Enfin, on le sait, mais je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Et donc, oui, ça a permis de mettre en contact deux mondes, en fait, hein, l'Euphrasie d'un côté et puis l'Amérique de l'autre. Hein, donc, les deux grands continents, en fait, de l'espace terrestre. Donc, ça a été un événement majeur qui a participé à cette mise en monde de l'humanité. Mais justement, là, c'est aussi quelque chose qui a interroger les contemporains, je pense en Amérique bien sûr, mais je pense aussi en Europe, et la question...
Qui les interrogeait d'un point de vue éthique ?
Complètement, c'est-à-dire que la question, la mondialisation est-elle une connerie ? Elle trouve aussi son origine dans une autre question qui a été débattue à la fin du 18e, en France, en Europe. Alors c'était pas formulé comme ça, mais est-ce qu'on a eu raison en fait ? Est-ce qu'on a eu raison ? Est-ce qu'on a eu tort de découvrir l'Amérique en fait ? Est-ce que il aurait pas mieux valu en fait que cet événement n'arrive pas ? Et c'est une question qui est absurde, hein, parce que de toute façon c'est trop tard, hein, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est une question qui se pose, et c'est intéressant malgré tout de se la poser, parce qu'effectivement on pourrait imaginer, donc c'est de la what if history, enfin voilà. Mais on pourrait imaginer, en fait, que cet événement n'a pas lieu, que cette mondialisation n'ait pas lieu, en fait, et que, du coup, on continue à vivre avec deux grands morceaux d'humanité qui s'ignorent, en fait.
Mais est-ce que
ça nous paraît complètement impensable ?
L'imaginer, parce que l'espèce humaine est une espèce qui semble vouloir voyager, on l'a dit tout à l'heure, avec aujourd'hui l'horizon de l'espace, et quoi qu'il arrive, au moins l'horizon terrestre. Enfin, on a l'impression que c'est quand même à peu près inéluctable et que ce ne sont que les moyens techniques qui empêchent le voyage de l'espèce humaine.
C'est ça. Au 19e, ou même peut-être avant, les Européens ont tendance à penser qu'il n'y a qu'eux qui sont curieux, qu'il n'y a qu'eux qui ont envie d'aller au-delà de l'horizon. Bon. Ce qui est très prétentieux et très européocentré. Mais alors qu'on justement, on peut penser que c'est presque, je ne sais pas si c'est congénital à l'humanité, mais en tout cas, il y a un besoin. Il y a un besoin d'aller voir ce qui se passe au-delà de l'horizon. C'est bien ce qui explique le fait que des êtres humains, finalement, se sont diffusés, enfin, se sont empeuplés quasiment l'ensemble de la planète, quoi.
Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous réfléchissons à la notion de mondialisation aujourd'hui dans Géographie à la carte avec Vincent Capdepuis. Vous êtes venu, comme l'exige la tradition, avec une carte que vous avez choisie. Cette carte que l'on doit à Alexandre Nicolas, alias Le Cartographe, sur Twitter. Eh bien, on peut la visualiser sur le site internet de l'émission. Il s'agit d'une vue du globe. C'est une vue du dessus, centrée sur le pôle Nord. Et donc, on peut y voir un certain nombre de choses, et notamment la ligne de changement de date qui passe dans l'océan. Océan Pacifique. Pourquoi le choix de cette carte pour commencer, Vincent Capdepuis, en quoi est-elle importante?
Alors c'est une carte magnifique faite par Alexandre Nicolas, qui s'inscrit dans un projet d'atlas d'histoire globale. Et c'est un choix de, d'abord il y a un choix de projection. Hein. Alors vu du dessus, oui. Alors vu du,
je ne sais pas si c'est un dessus ou un dessous,
mais en tout cas qui est dont le pôle Nord est au centre. Voilà, c'est une carte azimutale polaire. Comme on dit. Donc c'est une carte qui est circulaire, qui est pas très habituelle peut-être pour nous par rapport à ce qu'on voit, mais qui est très importante. Et c'est une projection qui est ancienne, hein, qui date déjà du début du XVIe siècle. Hein. Donc qui a été utilisée au début du XVIe siècle. Donc ça intéresse, rien que la projection est intéressante. Magellan possède une carte construite selon la même projection, hein, lorsqu'il fait le tour du globe. Et en tout cas, il se lance dans ce tour du monde. Et donc, ici, on a les fuseaux horaires qui sont répartis tout autour du globe et qui nous rappellent, en fait, donc, ce système qui a pour ligne de référence le méridien de Greenwich, hein, depuis 1884. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, en fait. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons fonctionne grâce
à des conventions,
des mécanismes qui datent pour certains en fait du 19e siècle
et qui permettent à la mondialisation d'avancer, d'exister,
ou à l'humanité en fait tout simplement de vivre en fait. Hein, c'est une approche fonctionnaliste de la mondialisation, mais qui est importante. C'est vrai qu'au quotidien on est dans notre fuseau horaire, on n'en a pas forcément besoin. Ça dépend du métier qu'on fait, ça dépend de la famille qu'on a, de la dispersion de ses proches, etc. Pour moi, c'est presque quotidien puisque je travaille à La Réunion, donc il y a trois heures de décalage. Et c'est important en fait cette réalité, c'est-à-dire que c'est un système qui nous permet de fonctionner, qui a une histoire, qui a une géographie avec un découpage de ces fuseaux horaires et qui nous interroge aussi au-delà, parce que ça permet de vivre dans un système qui nous donne l'heure, qui nous donne aussi la date, qui définit un présent. Et c'est un présent qui est, on a l'impression qu'on vit le même jour, ce qui n'est pas tout à fait vrai. À La Réunion, ils sont déjà demain, en fait.
Et donc ça change l'idée qu'on se fait de l'humanité. C'est ce que vous disiez au début de cette émission, c'est la réunification au fond d'une humanité éclatée, dispersée au fur et à mesure des siècles.
Oui, et on a besoin en fait. On a besoin de ces règles, de ces conventions. C'est les heures, c'est la date, c'est le système métrique. Il y a des choses qui peuvent paraître complètement anecdotiques, mais on a besoin de savoir le temps qui fait, le temps, la météo.
La météo fait partie du sentiment commun.
Non, mais elle fonctionne. Il y a un savoir météorologique. Il y a une science de la météo. Et il y a des stations météo à travers le monde entier. Et tout cela ne peut fonctionner. D'abord, il y a un organisme météorologique mondial. Mais tout cela ne peut fonctionner que grâce à un langage commun. Au début du 20e siècle, on a mis au point un atlas des nuages. Alors, ça peut paraître très poétique comme ça.
On en a parlé d'ailleurs dans cette émission, une émission sur les nuages.
Mais et je trouve ça assez fascinant en fait. On a besoin en fait, on a besoin qu'on soit au Pérou, en Chine ou je ne sais où, on a besoin de nommer les nuages en fait de la même manière. Donc tout ce langage commun en fait, malgré par-delà la Babel linguistique, etc., on a besoin d'un langage commun et de conventions communes.
Et ces conventions, est-ce qu'elles ont un moment où elles se développent plus particulièrement, qui permettrait de dater vraiment le début de la mondialisation vraiment organisée de façon scientifique?
Oui. Je crois que véritablement, c'est au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est vraiment à ce moment-là.
Donc c'est lié avec la machine à vapeur, avec l'accélération.
Ouais, c'est peut-être un petit peu plus tard, mais c'est lié en partie à ça. On a besoin, alors, avec la machine à vapeur, avec les transports modernes, on a besoin d'avoir l'heure, hein. Savoir quand ça part, quand ça arrive, avec le télégraphe, enfin, etc. Donc c'est vrai que ça y contribue. Le fait qu'on a une contraction en fait de l'espace-temps avec la modernisation des moyens de transport et de communication, c'est la poste aussi. Le fait d'avoir des conventions sur le timbre poste, voilà. Donc c'est un organisme qui est installé à Berne, en Suisse. Et tout ça permet à l'humanité de fonctionner. Bon, clairement, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est l'humanité sous la domination européenne. Mmh. Voilà. On est dans une mondialisation européenne, c'est l'apogée de la colonisation, des grands empires coloniaux. Donc, on peut le dater de ce moment-là, cette mondialisation. Je crois qu'on est en train de passer à autre chose aujourd'hui, justement, peut-être avec une contestation peut-être de ces normes, ou avec d'autres acteurs qui veulent aussi dire leur mot. Mais on est dans le prolongement, en fait.
Et alors, le début du XXe siècle, c'est aussi la première guerre dite mondiale. Et le fait même qu'on utilise ce mot de mondial dit quelque chose du fait que l'humanité se sent appartenir à une même humanité.
Alors, il y a peut-être une part d'illusion, en fait, parce que, oui, c'est vrai, la Première Guerre mondiale, donc la guerre de 14-18, est appelée comme ça dès le départ. Dès 1914, dès août-septembre 14, on parle de guerre mondiale. L'expression est là. L'expression existe depuis 1899-1900. Mais elle n'existe pas avant, parce que de toute façon, l'adjectif mondial en français n'existe pas. Donc en fait, on ne pouvait pas parler de guerre mondiale au moment des guerres napoléoniennes, on ne pouvait pas parler de guerre mondiale au moment de la guerre de 7 ans, par exemple.
Qu'est-ce qu'on aurait dit alors? Quel était le mot qui remplaçait ou qui précédait le mot mondial?
L'adjectif qui précède, c'est universel.
Et pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre?
Alors, il y a une influence de l'italien dans les années 1800. Alors, l'adjectif mondial n'existe pas du tout. Donc, il y a une influence de l'italien dans les années 1870 qui fait qu'on adopte un mot nouveau qui peut-être convient mieux au fait qu'on parle de monde. En fait, je pense que ça aussi correspond à cette. On est toujours dans la même période, hein, la fin du 19e. Le monde s'impose, l'adjectif mondial s'impose. Et alors que pendant longtemps, en fait, il avait été probablement bloqué par un autre adjectif qui est mondain et qui n'a rien à voir, en fait, enfin, qui n'a rien à voir, qui veut dire tout à fait autre chose. Et donc, on a l'influence de l'italien dans les années 1870, on a probablement l'influence de l'allemand aussi, où le terme de Weltkrieg existe avant. Et donc, l'adjectif mondial devient de plus en plus employé dans les années 1890, et finalement on commence à parler de guerre mondiale, là où on aurait parlé de guerre universelle 20 ans, 30 ans, un siècle auparavant. Donc on parle de guerre mondiale parce que l'expression existe, ce qui ne veut pas dire que c'est la première guerre mondiale. En fait, les guerres napoléoniennes sont aussi des guerres mondiales, la guerre de 7 ans est aussi une guerre mondiale, enfin en tout cas on peut le penser, certains historiens le pensent, d'autres peut-être le contestent, mais c'est pas forcément la première en réalité.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jean-Jacques Milteau à l'harmonica, accompagné de Michel Schott et de Demi Evans, pour ce morceau bien connu, l'International, chanson du mondialisme, de la mondialisation. Enfin, Vincent Capdepuis, on pourrait peut-être le dire, non?
Mais bonne question. En tout cas, donc c'est une chanson qui date de 1871. On en revient toujours à cette décennie ou à ce moment quand même de l'histoire. Est-ce que l'internationalisation finalement est synonyme de mondialisation? Pas exactement. Alors c'est un mot qui est antérieur. Hein, c'est un mot qui date alors qui vient de l'anglais, qui date de la fin du 18e, des années 1780, et qui a été repris en français au cours du 19e. Et l'internationalisation, c'est un sens très particulier hein, au 19e, encore au 20e siècle. C'est le fait de neutraliser certains espaces comme le Rhin, comme le canal de Suez. Voilà.
De neutraliser.
Sur le plan politique. Se mettre d'accord sur le plan en termes de gestion politique, parce qu'ils sont cruciaux au commerce, et donc les grandes puissances européennes, on est toujours dans le même contexte, s'entendent en fait pour éviter tout conflit à propos de ces grandes infrastructures. Donc on parle d'internationalisation, on pourrait penser au Congo par exemple en Afrique après la conférence de Berlin.
Mais l'international c'est autre chose, c'est non, une diffusion des idées.
Mais j'y viens, ouais. Donc ça c'est l'internationalisation. Et à côté de l'internationalisation, il y a l'internationalisme. Et là qui est tout autre chose en fait, qui est vraiment le mouvement ouvrier hein, qui date lui aussi du milieu du 19e siècle, mais qui ne fixe pas d'échelle. C'est la même chose dans l'internationalisation. Hein. Dans l'internationalisme, l'idée, c'est de dépasser les clivages entre nations. C'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. D'accord. Donc, mais il n'y a pas d'horizon fixé, il n'y a pas d'espace. C'est très important. Hein. C'est un dépassement des antagonismes entre nations. Bon. Donc l'internationalisation précède sans doute une forme de mondialisation, enfin de mondialisme en fait. Mais ce mondialisme qu'on cherche un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que l'internationalisme tel qu'on a pu le connaître au 19e ou encore jusque à la guerre d'Espagne ou plus tard, on aurait pu penser qu'il aurait pu se prolonger hein, politiquement dans des mouvements mondialistes.
C'était le projet d'ailleurs. Mais il y a quand même des prolongements. Par exemple, le 1er mai, la fête du travail, c'est vraiment une fête mondiale. Ça fait partie quand même des éléments de la mondialisation.
Complètement. Complètement. Le 1er mai, le 8 mars aussi, donc ça n'a pas la même histoire. Mais on a des journées comme ça qui sont issus alors du mouvement dans les deux cas hein, qui sont issus du mouvement ouvrier à la fin du 19e et qui permettent de donner un calendrier commun à l'humanité aussi et un calendrier marqué par des revendications.
Donc la mondialisation, c'est un mot tardif, comme vous l'expliquiez à l'instant, Vincent Capdepuis, c'est un mot qu'on utilise en français, mais que les anglo-saxons n'utilisent pas. Ils utilisent un autre mot qui est globalization, qu'on traduit souvent, nous, par globalisation, qui est encore un concept un petit peu différent de la mondialisation. Est-ce que ça dit quelque chose, finalement, des imaginaires, des aires culturelles, que d'utiliser des mots différents pour parler de la même réalité, ou c'est peut-être d'ailleurs pas exactement la même réalité?
Pas exactement. Et je crois que c'est une des richesses, pour le coup, de la langue française, d'avoir les termes de globalisation, de mondialisation, de planétarisation.
Alors, planétarisation, qu'est-ce que c'est?
Alors, peut-être que j'y reviendrai après, je vais quand même rester sur la première question, déjà sur la différence entre globalisation et mondialisation. Ce qui est intéressant dans le terme anglais, en fait, états-unien, qui date de 1944 dans sa première utilisation, c'est que il donne une échelle plus précise parce que dans globalisation il y a le globe en fait. Je crois il faut l'entendre littéralement en fait et il faut pas le
globe et le monde c'est quand même très similaire.
Non c'est pas similaire et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le mot anglais il y a vraiment une référence à un objet sphérique qui est le globe terrestre. Le mot apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale, ça correspond aussi à un moment très particulier de l'histoire mondiale et de l'histoire des États-Unis. Eux, ils parlent de guerre globale à ce moment-là, et donc c'est dans ce moment que le terme de globalisation est inventé. Le terme de mondialisation désigne le monde, sauf que le monde, ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut l'employer alors avec ou sans majuscule, ça c'est un peu une convention de géographe, mais le monde n'a pas forcément désigné le globe.
Et comme vous disiez, donc le monde romain. Voilà. Donc c'est une culture en fait.
Le monde global.
Le mot monde et mondialisation renvoie plus à une culture, tandis que le globe, c'est l'objet globe. Et donc, il y a un rapport peut-être plus technique finalement avec un globe.
Oui, c'est vraiment la globalisation. Si on entend le concept au sens strict, c'est la constitution de cet espace global qui est une prédonnée, mais en fait qui est construit par les réseaux de transport et de communication. Donc le fait qu'on se heurte à cet à un moment donné, on se heurte aux caractéristiques aussi géométriques. On ne vit pas sur un espace qui est plan, qui est plat, d'accord, qui serait infini par exemple. On est sur un espace qui est sphérique et donc qui est fini. C'est la définition. D'accord. On peut faire le tour plein de fois, mais il reste fini. Donc la globalisation, c'est ça. La mondialisation, c'est le fait de faire monde. Cette mondialisation aujourd'hui, on pourrait mettre un adjectif, c'est la mondialisation globale, en fait, par rapport à d'autres mondialisations, que ce soit à l'échelle du monde romain, du monde chinois ou autre. Et la planétarisation introduit une autre dimension, qui est la dimension environnementale, en fait. Le fait que, voilà, il y a d'un côté le fait de faire monde, il y a de l'autre le fait de vivre sur un espace qui est sphérique, mais c'est une vision qui est très abstraite, finalement, dans la globalisation. Et la planétarisation, alors qui est un terme au départ qui est inventé par Teilhard de Chardin, mais dans un autre concept, qui est dans une vision très religieuse, mais qui a été repris finalement par des géographes ou des écologistes, permet de rappeler que ce globe, ce monde, c'est aussi un milieu vivant, un écosystème.
Aujourd'hui, donc entre ces trois définitions, la mondialisation qui renvoie davantage à la culture, la globalisation qui renvoie peut-être davantage à l'économie et la planétarisation qui renvoie davantage à l'écologie, on est peut-être plutôt dans la globalisation. C'est la globalisation qui a gagné aujourd'hui.
Je crois pas. Je crois que c'est une illusion. C'est une illusion économiste que peut-être nous avons. Parce que bon, on est très attentif à l'économie, et bien sûr ça se comprend. Mais je crois qu'on oublie en fait. On oublie ce dont l'humanité est faite. On oublie ce dont le monde est fait. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler.
En tous les cas, le Torrey Canyon, qui était un bateau qui a coulé avec le pétrole qu'il transportait à l'intérieur de ses cales en 1967, est peut-être quand même un drame de la globalisation.
Je suis né dans les chantiers japonais, en vérité, j'appartiens aux Américains. Une filiale d'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. De pétrole brut, 120 000 tonnes.
Dans le Torrey Canyon, le Torrey Canyon.
Aux Bermudes, à 30 degrés de latitude, se tient la Barracuda Tankers Corporation. Son patron donné en location à l'Union Oil Company de Californie.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Le pétrole du Torrey Canyon vient du Koweït, Vincent Capdepuis, il est immatriculé au Liberia, c'est tout ça est dans la chanson je crois, l'équipage est italien, c'est la catastrophe du système global chanté en 1967.
Oui, c'est une chanson qui est assez fascinante en fait, hein, puisqu'elle elle dit dès 1960, enfin, dès la fin des années 60, quelque chose qu'on connaît aujourd'hui en fait, hein, c'est-à-dire la... Cette, euh, cette globalisation financière, ce libéralisme en fait, hein, qui fait qu'on a voilà un bateau qui vient des chantiers navals américains et puis japonais avec un équipage libérien, etc. Avec des sociétés écrans en fait, bon tout un système qu'on connaît et qui aboutit à la fin à une catastrophe écologique très importante, hein, puisque le tanker s'échoue sur des îles britanniques à l'entrée de la Manche avec du pétrole qui se déverse, bon, qui est emporté par les courants vers l'Angleterre comme vers la France. C'est une des plus grosses marées noires, hein, et ça a beaucoup marqué la population à l'époque. Bon. Je dirais que rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Hein. On a toujours autant de bateaux.
Probablement beaucoup plus.
Oui, non. Oui, autant si voilà, plus de bateaux qui circulent dans des états, enfin voilà, déplorables et qui menacent en fait l'environnement océanique.
Ce qui pose la question de la gouvernance de la globalisation. Vous voyez comme on est passé insensiblement de la mondialisation à la globalisation au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, Vincent Cap depuis. Est-ce que ça progresse, la gouvernance globale ?
Je crois pas. Je crois pas. C'est ça. On retrouve la question de tout à l'heure un peu. Il y a de quoi peut-être être désappointé, déçu, je sais pas, par ce qui se passe. Je veux dire, bon, voilà, si on prend ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Soudan, les guerres.
Donc les guerres, la mondialisation est une bêtise.
Les guerres, non, c'est pas ça. Non. Les guerres actuelles, c'est sûr. Mais la guerre civile en Syrie qui continue, l'ONU n'y arrive pas en fait. C'est très décevant en fait. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut pour autant y renoncer ? Ou est-ce qu'il faut au contraire y croire davantage ?
Alors Shakira, en tout cas, elle, y croit davantage.
Imagine this, no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today.
Donc ça, c'est Shakira qui chantait à l'ONU devant l'Assemblée générale à New York en 2015, une intervention au cours de laquelle elle avait expliqué aussi qu'on vivait dans un monde où la pauvreté est endémique, qu'il nous appartient d'être la première à éradiquer la pauvreté, première société, parce que les enfants ont le droit à l'égalité, au bonheur, à la sécurité, disait-elle. Et puis elle a dédié sa chanson, vous vous en souvenez probablement, à Eylan et Galip Kurdi, les deux enfants migrants, tout petits enfants, dont les corps sans vie avaient été retrouvés sur une plage turque suite à leur noyade. Ça, c'est une forme de mondialisation assez impressionnante, qui est comme ça une figure qui puisse parler au monde entier dans une enceinte qu'est l'ONU. Quel regard vous portez là-dessus, Vincent Cap, depuis ?
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle intervient, donc on est en 2015, elle intervient devant l'Assemblée générale de l'ONU, juste après le pape François. Donc on voit des figures un peu, enfin très différentes, hein, mais chacune dans son style. Elle intervient donc en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF à ce moment-là, et c'est une chanson qui voilà, donc elle reprend Imagine de John Lennon qui date de 1971, et ça peut paraître extrêmement naïf en fait comme chanson, voilà, et puis comme une illusion en fait, comme
oui, parce que la juxtaposition des deux enfants morts et de leur image avec l'image de Shakira, qui est une des personnes qui a le plus de succès probablement dans le monde, étonne pour le moins.
Oui, bien sûr. Mais puis la chanson elle-même peut paraître d'une grande naïveté. En fait, bon, c'est le rêve d'un monde sans race, sans religion, sans haine, sans guerre. Oui, on peut sourire en fait. On peut sourire à ça. Considérer que ce sont que des rêves, en même temps, et donc ça a lieu en 2015, au moment de l'adoption des objectifs de développement durable. Ces objectifs devaient être atteints en 2030. En fait, c'est le taux de pauvreté, par exemple, le taux de personnes souffrant de la faim ont augmenté par rapport à 2015. Donc on voit bien que c'est un échec en réalité.
Donc est-ce que pourtant, ça n'exacerbe pas finalement les différences de mettre côte à côte des personnes qui ont des vies aussi diamétralement opposées dans le même cadre qui est le cadre de la communication et à travers des réseaux où finalement tout le monde communique avec tout le monde ?
Non mais juste pour revenir quand même, je crois que voilà, dans cette chanson, dans son discours et dans ce moment, on peut considérer que c'est illusoire, que c'est peut-être d'une très grande naïveté. Et en même temps, ça reste des objectifs qu'on doit tenir, en fait. Je veux dire, l'éradication de la pauvreté, oui, c'est le premier objectif, en fait. L'éradication de la faim dans le monde, enfin, je veux dire, tout ça, c'est... On peut pas les abandonner, en fait, au nom de je ne sais quel réalisme, de cynisme ou de pessimisme, en fait. C'est... Voilà, entre le monde...
Mais est-ce que la mondialisation œuvre pour cela ? Ou est-ce que la mondialisation crée davantage de pauvreté ?
Je crois pas que la mondialisation soit un processus unique en fait. Je ne sais pas si on peut dire la mondialisation en fait. Voilà, on vit dans un même monde. Voilà, c'est une réalité. Qu'est-ce qui fait la misère ? Qu'est-ce qui fait la guerre ? C'est pas la mondialisation en fait.
Ce qu'on reproche parfois donc à la mondialisation, globalisation, c'est la question de l'uniformisation. Le fait que quand vous voyagez, vous avez le sentiment qu'au fond les différences s'estompent d'année en année, de décennie en décennie. Votre regard là-dessus ?
Je crois pas. Je pense que c'est aussi une chance. En fait, c'est une chance de sortir de son enfermement, de certains déterminismes. Je viens d'une île où une partie de la jeunesse reçoit cette culture, enfin ces différentes influences, que ça vienne des États-Unis, de Corée, du Japon, de la Chine, de France, d'Italie, je ne sais où. Bien sûr que ça chamboule peut-être certaines traditions, ça chamboule la culture réunionnaise. Et en même temps, ces jeunes, ils ont, au moins pour une partie, ils y adhèrent en fait. Ils ont envie de sortir d'un horizon restreint. Donc je pense que la mondialisation, c'est aussi une chance.
Donc pour vous, citoyen du monde, c'est une expression qui a un sens. Et vous imaginez que, à une échéance plus ou moins longue, on va réussir à avoir par exemple un gouvernement du monde et à achever la réunion de l'humanité.
Je ne sais pas si le gouvernement du monde, c'est la solution. Mais en tout cas...
Pourtant, il y a des problèmes qu'on ne peut pas tellement régler autrement.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on avance politiquement. Il faut qu'on avance politiquement. Ça veut dire réformer l'ONU, notamment, réformer le Conseil de sécurité. Enfin, des choses que plein de monde dit, en fait. Hein. Mais bon. Et à côté de ça, travailler sur ce que ça signifie être citoyen du monde. Parce que on est de plus en plus de citoyens du monde et en même temps ça peut être très abstrait en fait. Citoyen du monde, c'est sur le plan culturel, c'est sur le plan économique ou c'est vraiment sur le plan politique. Et dans quelle mesure en fait on a un pouvoir en fait. Une sorte de tiraillement entre d'un côté la nécessité d'une gouvernance mondiale et en même temps le fait qu'on éprouve tous cette idée que la souveraineté, le pouvoir, il s'exerce mieux localement.
Oui. Alors, on espère qu'il ne faudra pas en arriver à la solution qu'avait inventée H.G. Wells dans La Guerre des Mondes, parce que finalement, quand les extraterrestres attaquent la Terre, eh bien finalement, ça unit tous les peuples, peut-être une menace extérieure un jour, et on va terminer l'émission par cette idée, réussira à souder tout le monde. Merci beaucoup, Vincent Capdepuis.
Merci.
Et je rappelle que vous avez publié chez Alma Éditeur 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia, ainsi qu'aux presses universitaires de Lyon, Le Monde ou Rien, histoire d'un concept géographique. Géographie à la carte, c'est Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et ce soir Florent Bujon qui nous accompagnent en régie. La semaine prochaine, on s'intéressera à Jérusalem quand l'urbanisme se confond avec l'histoire et la guerre, mais tout de suite de l'histoire précisément, puisque vous retrouvez Xavier Mauduit.